BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on va prendre un petit peu de recul par rapport à la situation macroéconomique, géopolitique, avec notamment Patrice Gautry qui nous accompagne depuis l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice Gautry, merci de répondre à l'appel de BFM Business. Avec, en effet, il y a un instant, John Plassard qui nous parlait des prêts hypothécaires. On a pas mal d'actualités aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec la Banque de Suède qui a annoncé aujourd'hui baisser ses taux directeurs. Demain, c'est la Banque d'Angleterre qui va se réunir. Bon, visiblement, en Europe, ça y est, les baisses de taux commencent petit à petit à se mettre en place.
Oui, le schéma effectivement de la détente progressive des politiques monétaires européennes se poursuit puisque ça avait été initié par la Banque nationale suisse. C'est prolongé effectivement par la Banque nationale de Suède qui a en même temps annoncé ce matin qu'elle pourrait encore baisser par deux fois son taux d'intérêt directeur, donc au second semestre. Demain, la Banque d'Angleterre, vous l'avez rappelé, elle se réunit. Il n'y aura certainement pas de baisse de taux encore. Mais par contre, on peut avoir un ton et une communication beaucoup plus favorable, un petit peu comme la BCE la dernière fois, c'est-à-dire que l'orientation et de l'économie, mais aussi surtout du marché du travail et de l'inflation devrait, je dirais, construire un horizon dans lequel la Banque d'Angleterre pourrait baisser ses taux dès le mois de juin. Alors là, on n'a pas des anticipations aussi rapides sur les marchés monétaires. Par exemple, il reste un petit peu plus circonspect. C'est pour ça que demain, on regardera avec attention la teneur, en fait, de cette communication pour voir si la prochaine baisse est le mois de juin, le mois d'août ou le mois de septembre. Mais dans le scénario que nous retenons, on peut avoir une baisse dès le mois de juin du côté anglais.
Je le disais, les marchés sont sur leur plus haut historique ou presque en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec notamment les perspectives de baisse de taux aux États-Unis, parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est la Fed qui est largement suivie par les investisseurs. Et là, on voit des investisseurs qui, la semaine dernière, pariaient sur une baisse de taux. Et là, finalement, ils voient peut-être deux baisses de taux avec un rapport sur l'emploi américain vendredi qui avait rassuré.
Oui, tout à fait. Effectivement, le schéma d'inflation laisse pas beaucoup de marge, en fait, pour la Fed de baisser ses taux. Et si on se cale sur le scénario d'inflation, revenir vers 2,5, eh bien, ce sera peut-être en toute fin d'année, mois de décembre ou début d'année prochaine. Ce qui voudrait dire que, basé sur ce scénario d'inflation, la Fed ne baisserait qu'une fois ses taux d'intérêt directeurs. Mais la porte est ouverte et on a vu avec le ralentissement prononcé du marché de l'emploi, un début de remontée du taux de chômage. Eh bien, en fait, ce calendrier pourrait éventuellement être un petit peu accéléré puisque Monsieur Powell a déclaré pendant sa conférence de presse que si jamais il y avait une dégradation rapide de l'emploi, eh bien la Fed agirait un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt, ça voudrait dire peut-être le mois de septembre. Donc il y a deux options. Si on enlève toutes les réunions qui se tiennent au moment de la campagne électorale, octobre et novembre, eh bien ce serait soit septembre, soit décembre de cette année. Mais effectivement, ça donne un schéma de baisse de taux qui est un petit peu plus faible que celui qu'on va trouver dans les banques européennes.
Et comment vous voyez, vous, ces scénarios de baisse de taux aux États-Unis, sachant qu'on le voit semaine après semaine, il y a un consensus qui n'arrive pas à se former pour l'instant, en dehors du fait qu'il n'y aura pas de baisse de taux au mois de juin, ça c'est quasiment sûr.
Oui, effectivement, il y a un consensus sur la croissance, il y a à peu près un consensus sur l'inflation. Par contre, il y a autant de scénarios en fait de baisse de taux d'intérêt directeur qu'il y a de marché monétaire, obligataire et peut-être même d'économistes aux États-Unis. Le scénario que je privilégie est basé peut-être sur celui, le scénario sur l'inflation. Donc la détente de l'inflation mettra du temps, comme je l'ai dit. On ne retrouvera le range ou le corridor de 2,5% qu'au début d'année prochaine, ce qui voudrait dire que dans ce scénario-là, la Fed est justifiée de baisser les taux plutôt en décembre et devrait être patiente encore sur les prochaines réunions de l'été et peut-être même en septembre. Et comme je le disais, en fait, il y aurait une assurance tout risque du côté de l'emploi. Si jamais l'emploi se dégradait, alors à ce moment-là, septembre pourrait revenir en probabilité. Mais basé sur l'inflation, c'est un scénario plutôt d'attente et ça a l'air d'être en ligne avec ce que déclarent les derniers gouverneurs, puisque chaque jour, en ce moment, on a des déclarations et ceci valide plutôt effectivement encore le scénario d'attente.
Et aujourd'hui, vous avez 65% des investisseurs qui parient au moins sur une baisse de taux de 25 points de base au mois de septembre, d'après le dernier consensus. Bon, en tout cas, le 10 ans américain qui était encore à 4,7% il y a une quinzaine de jours se retrouve sous les 4,5%, avec dans le même temps une dynamique sur les résultats d'entreprise qui est au rendez-vous. Ça, c'est vraiment la bonne surprise en plus qui permet au marché actions de bien se porter.
Oui, la détente des taux et surtout l'horizon, en fait, qui n'est pas fermé sur la détente de la Fed, donc maintient effectivement ou alimente en fait la hausse des indices et maintient des valorisations à un niveau élevé. Et sachant que en dehors de quelques déceptions aux États-Unis ou en Europe, eh bien, la copie des résultats est très très bonne. Et en fait, on s'oriente vers une année 2024 qui est une très bonne année en termes de bénéfices. Il faudra être vigilant peut-être effectivement sur la progression de l'année prochaine. Mais cette année, on est déjà presque à la fin du premier semestre et on voit bien que les marges des entreprises se tiennent très bien. La capacité à délivrer et à surprendre sont aussi encore là. Dans un scénario économique qui est très bon, la croissance ralentit en définitive relativement peu et une Fed qui laisse la porte ouverte à des baisses des taux. C'est Goldilocks, comme on appelle, c'est-à-dire en fait quelque part aussi le meilleur des scénarios pour les actifs risqués.
Alors c'est toujours compliqué de se mouiller sur les niveaux de marché, mais là vous pensez qu'ils sont justement valorisés ou à contrario, une pause serait plutôt bienvenue actuellement?
Alors on l'a vu d'ailleurs, le Nasdaq a fait des pauses récemment, il y a eu une période un petit peu trouble et puis en fait dès qu'il y a en fait de bonnes surprises sur un certain groupe d'entreprises et d'entreprises leaders avec l'actualité ou l'évolution, la maturité en fait que l'on a par exemple sur l'intelligence artificielle, eh bien on voit que le marché rebondit et reprend, c'est-à-dire en fait que dès que le marché corrige, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont prêts à reprendre des paris. Donc un environnement dans lequel les taux longs se calment, la Fed reste ouverte à des baisses de taux, permet effectivement de maintenir les indices à un niveau élevé, tant du côté américain que aussi du côté européen, puisqu'on a quand même pas mal de facteurs d'entraînement.
Dans vos notes à l'Union bancaire privée, quels sont les points d'attention que vous avez notés ou certains points négatifs, des points de vigilance qu'il faut avoir en tête? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque géopolitique est un petit peu absent des scénarios. On en parlait encore il y a quelques instants avec John Plasser de Mirabeau, mais pour l'instant, l'élection américaine n'est pas du tout dans le jeu des marchés.
Oui, alors il y a trois risques, et les risques géopolitiques sont bien entendu importants, ils sont même très très élevés, je dirais, par rapport à cette espèce d'image de normalité que peut renvoyer en fait et de prise de risque de la part des investisseurs. Les risques géopolitiques sont très importants. La campagne électorale va effectivement générer de la volatilité. Les tensions avec la Chine, tant les relations américo-chinoises que européennes-chinoises, européennes et chinoises, il y a quand même effectivement des tensions qui sont importantes. Le Proche-Orient est effectivement dans une situation extrêmement vulnérable et pourtant le prix du baril est toujours à des niveaux relativement modérés. Le Brent est inférieur à 90$. C'est là effectivement le risque majeur que l'on peut avoir si jamais on revoyait 100$ ou 120$. Comme certains effectivement pouvaient, le pointer du doigt, si jamais on a une montée des risques géopolitiques. À ce moment-là, bien entendu, tout l'équilibre que l'on a en ce moment sur la désinflation et la détente des taux d'intérêt directeurs sera remis en cause et le consommateur américain dans une part, mais aussi européen, serait pénalisé par cette remontée du prix du baril. Donc, l'environnement géopolitique et surtout son débordement, en fait, sur les cours des matières premières peut être un facteur d'instabilité du scénario et comme on appelle, ça pourrait être un signe noir dans cet environnement.
Et dernière question sur les marges des entreprises. On a vu que pour l'instant, les résultats au premier trimestre étaient supérieurs aux attentes. Là aussi, il y a encore du potentiel dans les marges, dans la capacité des entreprises à dégager de la croissance, sachant que vous avez une épargne aux États-Unis qui est en train de se réduire à peau de chagrin.
Alors, du côté des marges des entreprises, on voit que c'est peut-être, alors peut-être pas l'expansion, ça c'était peut-être les trimestres passés et l'année dernière, mais on a une capacité à protéger les marges des entreprises et on le voit bien, par exemple, si je prends les derniers indicateurs PMI ou ESM, ils nous disent que, par exemple, ça se calme un petit peu du prix des entrants, donc en fait les prix des matières premières, mais par contre il y a toujours une certaine capacité à faire passer des marges et ces marges sont peut-être un peu plus larges et cette place elle est un peu plus importante dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier parce que là on a encore une demande qui est très forte et qui est pointée sur le tourisme, les loisirs, les déplacements et là visiblement il y a encore un peu de place pour laisser passer des marges.
Merci beaucoup Patrice Gautry. Je rappelle que vous êtes chef économiste de l'Union bancaire privée. Merci de nous avoir accordé quelques minutes en ce 8 mai, de nous avoir apporté votre éclairage depuis Genève.